Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, dans le viseur, en partenariat aujourd'hui avec l'école de Guerre-Terre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Samuel, bonjour.
Bonjour Alexandre, merci de l'invitation.
Alors, vous êtes aujourd'hui donc évidemment à l'école de Guerre-Terre, mais vous êtes ici pour nous raconter une histoire un peu plus ancienne. Je veux dire, je crois que... Non, vous n'êtes pas le premier, mais je n'ai pas eu beaucoup de légionnaires à ce micro. Vous êtes donc un légionnaire, et c'est une histoire qui date de 2019, c'est ça ?
Absolument, l'histoire date de 2019. Alors, pour spécifier, je ne suis pas légionnaire, parce qu'on fait la distinction à la Légion étrangère, chez ceux qui la servent, entre les légionnaires, qui ont démarré sous le képi blanc, et les officiers de Légion. Et donc, moi, je suis officier de Légion. J'ai servi 12 ans à la Légion étrangère. Et effectivement.
C'est-à-dire, les légionnaires, c'est ceux qui y resteront, et les officiers de Légion, bah, vous venez de Saint-Cyr, etc. Et puis après, en deuxième partie de carrière, vous êtes appelé éventuellement à prendre d'autres commandements, vous ne resterez pas forcément attaché à la Légion toute votre vie.
Alors, on reste fondamentalement attaché à la Légion.
En le disant, mais... je me suis dit que je disais une connerie.
Mais je dirais plutôt que les légionnaires sont ceux qui sont arrivés par le bas et surtout ceux qui ont conquis le képi blanc. On fait la distinction entre ceux qui l'ont conquis et ceux qui sont arrivés directement comme officiers. Puisque les légionnaires et les sous-officiers de la Légion étrangère ont tous démarré képi blanc. Et puis, 10% des officiers sont également issus du rang, donc ont également démarré légionnaire et portent pleinement l'appellation de légionnaire.
Alors c'est donc une histoire de ceux qui veulent s'apprêter à conquérir le képi blanc, c'est ça ?
Alors c'est même encore oui, d'une certaine manière, mais c'est même encore antérieur. Cette histoire, c'est l'histoire de mon arrivée au fort de Nogent en un beau jour de juillet 2019, où après 8 ans passés justement à la tête de légionnaires dans des unités de Légion étrangère, à l'instruction et puis au 1er régiment étranger de génie, je me retrouve affecté au groupement de recrutement de la Légion étrangère, donc là où passent finalement tous les candidats. Et là, enfin, par où passent tous les candidats. Et
absolument tous, y a pas, c'est centralisé. Si on veut devenir légionnaire, il faut se pointer à Nogent.
Pas qu'à Nogent, mais tout se passe par le système de sélection. Et le système de sélection, la tête est à Nogent. Et le dernier étage de la fusée de sélection est à Aubagne. Donc tout se passe par Aubagne à l'incorporation, effectivement. Et environ 50%, tous ceux qui sont engagés dans un poste de recrutement au nord de la France ou présentés directement à Nogent, passent par Nogent, sur les 7 à 9 000 candidats que l'on reçoit par an, que la Légion reçoit.
Non mais alors, donc juste restons là-dessus, 7 à 9 000 et combien deviennent légionnaires ? Ça dépend ?
Ça dépend des besoins de la Légion étrangère. Qui de ce fait fait évoluer le seuil.
Mais vous enverrez 30, 50, 90%.
Les besoins de la Légion étrangère pour cette année, c'est 1200 à 1300.
Donc c'est il y a quand même 80% qui vont pas rentrer quoi.
Le taux de sélectivité est actuellement de 1 pour 4 et quelques.
Ok, mais alors c'est fascinant parce qu'il y a une aura, il y a un mystère, il y a beaucoup d'histoires aussi autour de la Légion étrangère, puisque c'est donc cette arme où n'importe qui peut arriver, ou presque n'importe qui, parce qu'il y a quand même des limites à ça, et puis se réinventer une vie, s'inventer une nouvelle identité et gagner cette nouvelle vie au service des armes de la France. C'est-à-dire, vous devez en voir passer des gens étranges quand même qui arrivent.
Il y a des profils surprenants et de toute façon c'est surprenant puisque le choix de venir à la Légion il est jamais anodin et ce qui généralement est le dénominateur commun entre les légionnaires, entre les aspirants à la Légion étrangère, c'est d'être, de vouloir fuir d'une certaine manière ou échapper à une vie qui ne leur convient pas.
Et, juste, c'est con, mais il y a que des étrangers ?
Non, il y a, ça c'est une très bonne question. Il y a également des Français qui se présentent. En revanche, tous sont recrutés à titre étranger, donc se voient octroyer au départ un nouveau nom, et puis pour les Français, une nouvelle nationalité d'emprunt pour un temps limité. Mais effectivement, la Légion étrangère compte environ 10% de Français dans ses rangs, et c'est important pour la Légion étrangère de recruter des Français et de compter des gens aussi pleinement francophones dans ses rangs.
Il y a des limites à... Enfin, je veux dire, voilà.
Oui, il y a des limites tout au long de la sélection, mais effectivement, quand on arrive au... Alors, quand on arrive au recrutement, les trois lignes rouges qu'on a en termes de sécurité, ce sont... On souhaite que les intéressés n'aient pas de sang sur les mains, donc pas de crime de sang, meurtre, viol, et puis pas de condamnation pour trafic de drogue. Ça, ce sont les trois lignes rouges. Et après, je l'ai dit, il y a des profils...
Là, c'est crime de sang, donc meurtre. Ah oui, meurtre, deuxième viol et troisième drogue. Ouais. OK.
Et effectivement, ce qui est surprenant quand je découvre le circuit de sélection, c'est que je découvre finalement après 12 ans le parcours initiatique par lequel sont passés les hommes que j'ai commandés. Et effectivement, c'est assez impressionnant. On se pointe
devant
le... Vous
n'avez pas raconté un peu à quoi ça ressemblait avant ?
Non, il y a une sorte de règle tacite à la Légion étrangère qui est de ne pas interroger un légionnaire sur sa vie passée à moins qu'il ne la livre lui-même. Et comme la sélection est un petit peu à la charnière de cette vie, il rentre pas trop dans le détail, d'autant que c'est pas une conversation qu'ils auront souvent, puisque eux ont tous expérimenté ce passage-là. Donc non, j'avais pas une connaissance...
C'est-à-dire entre eux, ils n'ont pas besoin de se le raconter.
Exactement.
Et du coup, avec vous, il n'y a pas forcément...
Du coup, c'est pas forcément un sujet qui vient naturellement. Donc c'est surprenant quand on arrive au fort de Nogent de voir les affaires obligées, enfin les recommandations avec un panneau, parce que absolument, quasiment aucune consigne n'est en français. Tout est imagé, puisque la Légion étrangère est le seul corps d'armée qui recrute des étrangers ne parlant pas la langue. Donc les consignes sont partout affichées sous forme imagée. Et dès le portail, il y a un pistolet et un couteau barré pour faire savoir aux gens qui se présentent qu'il ne faut pas venir avec une arme. Et donc là, on m'explique que de ce fait, on a eu des difficultés au recrutement, puisqu'on a retrouvé du coup des armes de poing dans les fossés qui bordaient le fort de Nogent. Et du coup, depuis, ils avaient mis en place un petit coffre-fort pour recueillir les pistolets et les isoler. Ça, c'est une des règles, parce qu'en fait, les gens qui se pointaient avec des flingues, tout simplement, reculaient de 100 mètres, allaient balancer le pistolet dans un buisson, et puis revenaient se présenter pour ne pas perdre trop de temps.
Oui, ce qui peut éventuellement poser des problèmes de sécurité pour les Nogentais qui se promènent avec une poussette ou,
exactement,
ou le dimanche matin. On comprend.
Mais ça peut être gênant.
Non, mais par ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est aussi... comment dire, c'est assez original dans les armées, quoi, le fait que vous recrutez mais vous n'allez pas chercher. C'est-à-dire, bon, on sait que les armées sont toujours dans un challenge permanent de réussir à recruter suffisamment de monde pour remplir les rangs, notamment d'officiers du rang, enfin de soldats du rang. Là, vous n'allez pas les chercher, quoi, c'est eux qui viennent. Et c'est plutôt vous qui écrémez.
Ouais, le premier article du code d'honneur du légionnaire commence par « tu es involontaire ». Et chacun est venu volontaire. Effectivement, l'engagement à la Légion part d'un choix assez absolu, assez fort et assez délibéré. Et non seulement on ne vient pas les chercher, mais en plus, ils viennent souvent de loin. Ils viennent de loin avec la barrière de la langue. Et donc, on a souvent affaire à des candidats très déterminés. Il y a typiquement un sous-officier qui quittait le fort après 15 ans, qui a raconté le jour de son départ, qui a livré... Pour le coup, l'anecdote de son arrivée, et elle était assez émouvante. Cet homme, il est coréen, de Corée du Sud, et il a atterri à Roissy-Charles de Gaulle. Il ne parlait pas un mot, et il était venu en contradiction avec sa famille, qui ne souhaitait pas qu'il s'engage, évidemment. Et il se pointe à Charles de Gaulle, et il tend juste à l'époque sa fortune, 1000 francs, au chauffeur de taxi, et il lui dit « Légion étrangère ». Et le chauffeur taxi ne sait pas où c'est la Légion étrangère. On est un peu avant 2000, il n'a pas de smartphone sur lui. Donc le chauffeur de taxi l'emmène au commissariat le plus proche, demande où est le recrutement de la Légion étrangère. Les policiers lui indiquent que c'est au fort de Nogent. Et là, le chauffeur de taxi lui fait signe « Ok, tu viens avec moi ». Il le dépose devant le fort de Nogent. Et cet homme a été recruté. Et puis après, il n'a plus jamais fait demi-tour pendant 15 ans. Donc ce sont des parcours assez impressionnants, assez marquants par la détermination des candidats qui l'empruntent généralement. Et ça aussi, c'est assez unique.
Ouais, et puis c'est marrant, hein, parce que maintenant, je trouve qu'on commence à revoir une sorte de mythe de la Légion étrangère. Je sais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a beaucoup de vidéos de militaires qui racontent des trucs. Et je sais pas pourquoi, on m'a présenté beaucoup de vidéos, notamment d'Américains, qui racontent leur passage par la Légion étrangère et qu'ils présentent aussi comme le nec plus ultra. Enfin, il y a une sorte de mythe de la Légion où on se réinvente une vie. Enfin, ça marche toujours autant, quoi. Ça marchait dans les années... Enfin, je sais pas, je me souviens de film avec Jean-Claude Van Damme. Enfin, ça de Légionnaire.
Il y a Beau Geste pour les Américains qui leur parlent beaucoup. Et ça aussi, c'est assez drôle, c'est que chaque pays construit un peu son mythe. Effectivement, aux États-Unis, le mythe est assez vivace, même si les ressortissants des États-Unis représentent finalement une assez faible proportion des candidats à la Légion étrangère. Mais bien sûr, le mythe est entretenu, le mythe rend service à la Légion étrangère, et d'autant que le mythe finalement est fondé et n'est pas tout à fait faux. C'est quand même assez incroyable de voir qu'à une époque où tout le monde est tracé, notamment numériquement, la Légion étrangère arrive à maintenir un système par lequel vous pouvez changer temporairement d'identité, en quelque sorte disparaître et puis vous réinventer. Et puis c'est vrai que c'est assez à l'ancienne, justement, à la sélection. Les candidats arrivent, tout de suite on écarte les téléphones portables, on sépare la batterie, la carte SIM, le téléphone. Et en fait, s'ils continuent dans le système de sélection et s'ils franchissent les étapes les unes après les autres, ils n'ont plus accès à leur téléphone pour un petit moment. Et ça, c'est vrai qu'en 2024, c'est assez incroyable.
Quand est-ce qu'on leur redonne un smartphone ? Ils sont vraiment devenus légionnaires ?
Oui, quand ils sont vraiment devenus légionnaires un peu plus tard. Alors, dès l'instruction, le contact avec leur famille et leurs proches n'est pas véritablement définitivement rompu, puisque je sais que les règles ont un peu évolué là-dessus, mais quand je servais comme chef de section à l'instruction il y a une quinzaine d'années, je proposais systématiquement aux hommes d'écrire des lettres. Les lettres, c'était jamais interdit. Bon, les nuits étaient courtes, donc c'est sûr que si je choisis d'écrire une lettre tous les soirs, ça va prendre un petit peu de temps sur son sommeil, mais j'avais un légionnaire qui lui-même à l'instruction arrivait à trouver 20 minutes tous les jours pour écrire et postait sa lettre chaque fin de semaine. Et puis aujourd'hui, je crois
mais
que
c'est... Mais du coup, il pouvait recevoir du courrier ou pas ?
Un peu plus compliqué. Ça met un peu plus de temps. On va dire qu'il y a quand même un petit sas pendant la période d'instruction initiale. Et puis aujourd'hui, je crois que ça a nettement évolué et que les légionnaires, une fois qu'ils ont coiffé le képi blanc, donc après le premier mois d'instruction, téléphonent assez régulièrement à leur famille et donc le lien est beaucoup moins rompu que quelques années en arrière.
S'ils ont envie.
S'ils le souhaitent, évidemment.
Donc vous arrivez au fort de Nogent, vous trouvez des flingues dans les douves, enfin non, pas tout à fait, mais c'est quand même un nouvel univers. Ouais. Vous vous souvenez de... Donc juste, qu'est-ce que vous faisiez ? Parce que donc au service recrutement, vous n'allez pas chercher les gens, vous n'allez pas présenter la Légion, c'est donc les aspirants légionnaires qui arrivent. Et vous, il s'agit quoi ? Il s'agit de leur expliquer ce qui va se passer ?
Alors quand je suis affecté au fort de Nogent, c'est pour prendre le commandement de la compagnie de recrutement. Donc j'avais rendu le commandement de ma compagnie au 1er régiment étranger de génie. Et donc c'est plutôt pour gérer les sous-officiers et les légionnaires qui servent à la sélection dans la compagnie de recrutement, mais aussi ceux qui servent à la prospection. Et ça, c'est un peu plus étonnant. La Légion étrangère... Alors, n'essaye pas de convaincre les gens de venir à tout prix. Les gens viennent volontaires, mais a tout de même une mission de prospection physique sur le terrain au travers de 11 postes d'information en France et en Outre-mer pour informer les jeunes sur les possibilités de parcours à la Légion étrangère. Donc, en fait, quand j'arrive au fort de Nogent, c'est pour être placé à la tête de cette unité qui, à ce moment-là, rassemble les personnes qui servent à la sélection et les personnes qui servent à la prospection, deux métiers un peu antithétiques. Les uns qui disent « venez » et les autres qui disent « on va voir si t'as le niveau
». Et vous vous souvenez des premiers que vous avez croisés ?
Les premiers candidats ?
Ouais.
Ouais, les premiers candidats, c'est assez impressionnant. Et d'un côté, c'est très familier puisque... on leur fait déjà adopter un style militaire, mais ils n'ont pas les codes. Donc concrètement, ils sont dans le couloir de la sélection au fort de Nogent, au dernier étage du bâtiment. Ils ont un responsable par chambre qui transmet les ordres, donc en fait qui joue le rôle d'un petit gradé en unité.
aussi un aspirant, c'est pas un...
Ouais, c'est aussi un candidat. C'est très souvent un Français ou un bon francophone, du coup, qui comprend les ordres et qui est apte à les expliquer, à diffuser les consignes. Et ils sont tous habillés de manière uniforme après, en gros, la première journée de test, après les premiers tests psychotechniques et après leur enregistrement, ils passent un deuxième test psychotechnique un peu plus poussé d'une heure et demie. Et à ce moment-là, ils basculent dans une tenue noire, en fait, un survêtement de sport noir, uniforme pour tout le monde.
Psychotechnique, ça veut dire quoi ? Vous testez juste qu'il n'y en a pas qui ont des gros problèmes moteurs ou c'est déjà physique ?
Ah, c'est purement logique. Pour le moment, c'est purement logique. Donc, c'est de la logique mathématique, algébrique, de la logique de schéma, reconnaissance de schéma, des schémas logiques et puis de la logique spatiale.
Je croyais que c'était plus... Vous leur faites faire des tests de maths en arrivant, c'est...
C'est vrai. Et c'est
pas exactement l'image qu'on a de l'arrivée du légionnaire.
C'est pas l'image qu'on a, mais c'est important parce que dans une section de combat, vous avez aussi besoin d'avoir des gens qui comprennent l'esprit de la mission. Moi, sur ces tests-là, j'ai un point de vue un peu plus circonspect. Je dirais qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir que des mecs hyper intelligents. On a besoin d'avoir une majorité qui comprend bien l'esprit de la mission. Mais personnellement, en tant que chef, je préfère avoir un bon serviteur qui n'est pas le meilleur en algèbre. Malgré tout, on a quand même ces tests parce que déjà, on a besoin de sélectionner. On n'a pas forcément besoin de prendre tout le monde. Et puis parce que si on a des gens particulièrement lents ou qui comprennent tout à l'envers, ça va quand même être un petit peu compliqué au combat. Mais effectivement, les conditions dans lesquelles ils passent le test... avec le stress, l'arrivée, etc., était un point d'attention particulier pour nous. Parce qu'en fait, le candidat est extrêmement désireux de réussir, comprend absolument rien à ce qu'on lui raconte la plupart du temps. Et donc, il faut tout expliquer lentement, en traduisant lentement et en le mettant dans des conditions de calme et de sérénité. Ce qui est pas souvent son tempérament, enfin, son état d'esprit quand il arrive. Et ça, c'était une véritable gageure. Ouais. Effectivement, parce que ça influe énormément sur les résultats qu'ils peuvent avoir au test.
Et donc, vous, je sais pas, parce qu'en même temps, vous, je sais pas combien de temps vous êtes resté, mais si vous en voyez passer plusieurs milliers par an, bon, ils doivent se noyer dans la masse un peu, et en même temps, j'imagine qu'il y en a aussi dont vous vous souvenez parfaitement.
Alors ouais, il y a des cas dont on se rappelle parfaitement, mais effectivement, il y a cette ambivalence de, on se rend compte parce qu'on a eu ce genre d'homme sous nos ordres que c'est absolu pour chacun et que ça peut avoir une incidence énorme sur le destin de ces hommes, de réussir ou non le parcours de sélection. Donc en ça, c'est extrêmement absolu. Et puis d'un autre côté, effectivement, il y a, sans que ce soit absolument l'usine, il y a quand même du flux, il y a quand même du débit. Et puis les parcours sont quand même, c'est quand même des choix similaires. Et effectivement, il y a ce côté flux. Et il faut aussi se distancier du candidat, puisque faut accepter que tous les jours, on en raccompagne à la porte. Et puis, certains le vivent de manière tragique, mais malheureusement, c'est comme ça. Et ce que je me souviens de profils particuliers, oui, il y a toujours des profils assez surprenants, soit des gens titulaires de hauts diplômes universitaires, mais qui supportent plus leur vie et qui veulent voir autre chose, mais qui font un choix rationnel, fondé, assez convaincant.
Eux les maths ça doit aller mais...
Eux les maths ça va, exactement. Des gens aussi qui n'ont pas de parcours scolaire mais qui ont 20 sur 20 en psychotechnique. Donc les maths, ces gars là vous battent au test de logique. Ils parlent pas un mot, ils comprennent rien, mais voyez, vous voyez bien sur les résultats qu'ils vous battent, qu'ils sont hyper intelligents. Et puis pourtant ils ont arrêté les études à 14 ans. Donc là vous vous dites quand même que c'est, enfin, qu'en fait on a un peu de tout, quoi. On a un peu de tout. Et puis des gens qui ont des profils un peu plus asociaux. Moi, dans les profils qui m'ont marqué, il y avait nous on prend les tatoués, c'est la Légion étrangère, une des rares armées qui recrute sans qu'il y ait trop de problèmes sur les tatouages, surtout s'ils ne sont pas visibles, et notamment au titre de la deuxième chance. Donc il peut y avoir toutes sortes de tatouages, tant que ça peut être porté sous les vêtements, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Après, notre département sécurité va particulièrement enquêter sur le pourquoi du comment de chaque tatouage pour fouiller un peu la vie de l'individu et comprendre.
Alors ça, juste, c'est captivant, parce que bon, qui a fréquenté des militaires sait que les militaires sont généralement assez souvent tatoués, hein, c'est pas uniforme, enfin, les officiers un peu moins que les autres, mais comme partout dans la société, à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des armes ne doivent pas avoir beaucoup de problèmes avec les tatouages, mais sauf les tatouages qui ont évidemment des connotations ou un message politique. Et là, j'imagine qu'on parle des croix gammées, des choses comme ça, ou encore des tatouages de gangs russes. C'est de ça qu'on parle, qui pourrait poser problème dans les autres armes. Et vous faites le choix que, Bon, puis il sera peut-être le temps de les effacer un jour, et puis voilà.
Alors, le département de la sécurité conduit quand même une analyse fine, et de manière générale, c'est clairement pas un point vert sur la fiche du candidat. Mais on essaye, au recrutement, de ne jamais être absolument catégorique sur les individus et de comprendre sa motivation. Et je dirais que ce qui vient éclairer sa vie passée et les erreurs de parcours, et typiquement... moi, je juge que les tatouages idéologiques, c'en est très souvent une. Ce qui vient éclairer ces erreurs de parcours, c'est souvent le profil psychologique de l'individu. Et donc, ce qui nous intéresse au moins autant que son parcours, c'est finalement qui il est et comment il se comporte. Comment il se comporte en groupe. Est-ce qu'on peut un peu expliquer son comportement. En fait, ce qui est certain, c'est qu'on évitera de prendre un candidat qui a un profil toxique pour le groupe. Enfin, généralement, quand il est toxique pour lui-même, il est aussi toxique pour le groupe, ou les super individualistes. Après, on est quand même. Enfin, je peux pas trop en dire, d'autant que je ne connais pas véritablement les processus de sécurité qui demeurent par nature confidentiels. Mais je sais que le département de sécurité n'exclut rien d'emblée, et tout dossier est présenté. Est présenté à celui qui préside la commission de sélection. Mais bien sûr, on est extrêmement circonspect, et notamment quand il y a une connotation idéologique.
Mmh. C'est intéressant parce que ça implique que du coup, vous avez aussi des interprètes. Enfin, comment dire ? Il y a un truc de... Bon, donc maintenant, on ne parle plus votre langue et vous allez tous parler français. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais à la fin, vous parlerez français, ce qui est quand même central dans la Légion. Et puis, il y a quand même ces petits oasis où il va quand même falloir leur parler pour éclaircir certains points. Donc là, on fait venir des interprètes. C'est marrant.
Ouais,
comme,
c'est une très bonne image. C'est exactement ça, des oasis. En fait, ils sont dans un monde qui leur échappe. Mais il y a quand même des moments où on a besoin de se comprendre avec précision. Et je sais que pour les entretiens administratifs et les entretiens de sécurité, ce sont des départements à la Légion étrangère. On essaye de couvrir, bien sûr, toutes les langues. Et donc, d'affecter, la RH Légion essaye d'affecter dans ces départements-là des personnels qui sont issus qui couvrent à peu près toutes les langues. Généralement qui sont eux-mêmes polyglottes et avec des recrutements diversifiés et qui ont aussi les codes culturels des pays. Ça, au recrutement, c'est important pour mieux communiquer avec le candidat, mieux le comprendre.
Est-ce que vous avez des objectifs d'équilibre, je sais pas, de
nationalité,
quoi, de pas se retrouver avec une année où il y a que des Russes ou enfin ce genre de truc, quoi?
Toujours, il y a un objectif d'équilibre et puis après il y a une logique de réalité. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que la logique d'équilibre, c'est que bien sûr, on essaye de ne pas avoir à la Légion étrangère de regroupement par langue ou par nationalité. Parce qu'au-delà du regroupement par nationalité, il y a aussi une pléthore de pays qui sont russophones. Et si dans votre section, vous dépassez à un moment 50% ou 60% de russophones, ça va poser problème.
Ils vont se mettre à parler
en russe, ouais. Et le chinois ne va pas comprendre. Et le français non plus, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle la Légion essaie toujours...
Alors que ça, vous êtes censé être quand même hyper strict là-dessus, c'est qu'ils parlent français, quoi, non ?
Alors, en service, ils parlent français, mais même dans les chambres, dans la vie courante, en fait, dans la vie hors service, pardon, c'est même à ces moments-là que, par courtoisie, c'est important qu'ils soient, d'une certaine manière, contraints de parler français. Si vous avez un Népalais, un Brésilien... Et un Brésilien, un Colombien et un Français, en fait, ils vont parler français, y compris hors service, et peut-être un petit peu anglais. Mais si vous avez un Colombien, un Équatorien et un Péruvien, bah, en fait, ils risquent de parler espagnol, et le français qui est dans la chambre risque d'être de fait exclu. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de... La Légion est attachée à varier, à diversifier son recrutement. Après, il y a aussi une logique de profil. Parfois, vous avez... quand même des très très bons profils qui viennent d'un même pays. Et je sais qu'en ce moment, à la Légion étrangère, c'est un petit peu le cas avec trois pays en particulier, la Colombie, le Brésil et le Népal, sur lesquels il y a des flux importants de candidats. Bon, naturellement, on ne fixe pas une barre dogmatique pour maintenir ces pays à 5%. Enfin, on ne recrute pas que 5% de Népalais à la Légion étrangère. En ce moment, on en recrute davantage parce qu'on a davantage de profils adéquats en provenance du Népal.
En fait, il y a une logique hyper intrigante. Pourquoi est-ce qu'il y a des afflux tels de Colombiens, de Brésiliens et de Népalais ? Parce que ce ne sont pas des pays qui sont en guerre civile. Ouais. Ce ne pas des pays... Mais en même temps, vraiment, tu sais,
c'est une conjonction de facteurs, généralement. Il faut avoir la capacité économique de venir. Donc, en fait, souvent, un pays où économiquement, ça se passe, les perspectives ne sont pas très bonnes, mais ils peuvent avoir suffisamment d'argent de côté ou une communauté assez forte pour payer le billet d'avion. Ils peuvent obtenir un visa facilement. Donc, de fait, ça exclut certains pays et pour lesquels les flux vont être beaucoup plus réduits. Et puis le bouche à oreille beaucoup.
Donc, si vous avez des gens de cette nationalité pour lesquels ça s'est bien passé, y a aussi beaucoup un effet d'aspiration par nationalité. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de faire décoller cette nationalité, alors que d'autres nationalités qui sont très présentes vont naturellement créer un effet d'aspiration par le bouche à oreille. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Mais alors, puisque donc, vous avez un parcours dans la Légion, mais vous allez circuler ailleurs, pardon, comment dire ? Je veux dire comme ça, mais ça fait quoi d'avoir que des étrangers qui, à la base, parlaient globalement pas français ? Enfin, c'est quoi la différence ? Enfin, concrètement, fonctionnellement, on mesure bien qu'il y a, dans ces premiers temps que vous nous décrivez, il y a une étrangeté, il y a un arrachement, il y a un effort nécessaire. Ça, d'accord, on mesure que ça doit faire un effet différent au moment du recrutement, puis ensuite, vous en éliminez pas mal, etc., etc. Mais concrètement, une fois que, puisque vous les avez eus au génie, puis ailleurs, quoi, ça fait quoi comme... Est-ce que ça fait des soldats différents ? C'est ça ma question.
Faudrait... je pense qu'ils sont, ils sont les mieux placés pour répondre, mais ce que j'ai observé en unité, c'est qu'ils ont souvent une mémoire visuelle qui est meilleure que la nôtre. Parce qu'ils ont pendant longtemps observé sans comprendre ce qui se disait. Et ils ont appris à l'instruction sans tout comprendre. Mais comme on fonctionne beaucoup par démonstration, ils ont développé, en tout cas à l'instruction, ils ont souvent une très bonne mémoire visuelle. Vous pouvez leur présenter un enchaînement de 15 gestes techniques, ils vont réussir à vous restituer 90% des 15 gestes techniques parce qu'en fait, leur...
Ils théorisent moins, mais...
Ils théorisent moins, et puis à l'instruction, ils ont besoin de ça. En fait, tout fonctionne comme ça, donc en fait, ils sont hyper entraînés à apprendre en observant, et ils sont hyper entraînés, ce que m'avait dit un caporal-chef un peu ancien, à faire sans comprendre, ou en tout cas sans comprendre l'esprit, mais en comprenant grosso modo la lettre de ce qui est attendu d'eux. Et cette capacité à...
Ça c'est bien ou pas ? Parce que généralement, la manière dont on le présente habituellement, c'est il faut comprendre un bon ordre, c'est un ordre dont on comprend la finalité, etc., etc. Là, ce que vous nous décrivez, c'est un peu l'inverse, quoi.
J'aurais tendance à penser que ça dépend des échelons, qu'arriver à un échelon sous-officier où c'est un peu la cheville ouvrière, bien sûr, il faut comprendre et finement et comprendre l'esprit. Au niveau de l'échelon d'exécution, ça évite les questions parasites et ça permet d'aller droit sur ce qui est demandé. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu initialement servir à la Légion étrangère.
Pour avoir des mecs qui ne posaient pas de questions.
En fait, au départ, ce n'était pas du tout ce que je me figurais, mais en école de formation d'officier à Saint-Cyr, on a une phase où on vous confie des troupes de manœuvre, donc on vous met sous vos ordres pendant une demi-journée, une section, et j'avais eu une section du 1er régiment étranger de génie, qui plus est des enginistes. Donc sur le papier, ça ne vend pas du rêve. Des gens qui conduisent des tracteurs et des pelleteuses.
C'était avant l'Ukraine, ça. On s'aperçoit à quel point c'est important les tracteurs et les pelleteuses.
Déjà, mais on ne se dit pas... En l'occurrence, ils vont conduire une mission pro-terre, donc de combat débarqué. Et je ne m'imagine pas à ce moment-là qu'ils sont formés comme légionnaires, donc comme fantassins, et donc ils sont très bons sur ce combat débarqué.
Vous pensez que c'est des conducteurs de tracteurs.
Et voilà, et en fait ils sont polyvalents. Ils sont très techniques dans leur métier, mais aussi des super combattants quand on les débarque avec un fusil. Et donc je me retrouve avec une section de la compagnie d'appui du 1er régiment étranger de génie, mais avec justement des méthodes légion. Et notamment, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un moment, donc je devais, comme tout bon élève officier, m'emparer d'un carrefour, et j'arrive en vue du carrefour à 200 mètres. On observe l'ennemi, on me signale que l'ennemi est observé sur le carrefour, et je demande au chef de groupe de tête de poser un appui solide. Je lui ai dit « pose un appui solide ici ». Donc je reste assez générique en fait. Ici, je désigne une zone, un appui solide, en fait, dans ma tête, c'est plutôt une mitrailleuse, mais s'il veut mettre de l'antichar, il peut. J'essaye de lui laisser un peu de subsidiarité, un petit peu de champ dans sa décision. En fait, il a pris le bout de mon bras, donc il y avait une flaque de boue, il faisait 4 degrés environ, il faisait froid. Je me rappelle qu'il faisait froid, il faisait humide. Et il a allongé son mitrailleur au bout de mon bras, de tout son long, dans la flaque de boue. Et juste à côté, il y avait un petit monticule de terre sur lequel il était mieux, il avait des meilleures vues, et surtout, son bonhomme aurait été au sec. Et donc, je lui demande pourquoi vous ne le positionnez pas juste à côté ? Ça a l'air un peu mieux quand même. Et il me regarde, il dit, vous avez dit ici. Donc en fait, c'est la Légion étrangère, cette capacité qu'ont les légionnaires, en l'occurrence, c'était peut-être pas le sergent, justement, c'était le caporal qui avait donné cet ordre-là, mais la capacité qu'ils ont à exécuter à la lettre les ordres donnés, ça donne finalement une mécanique de précision, et en fait, c'est une Ferrari, quoi. Faut juste savoir conduire, et avoir le manuel, et savoir que c'est de la mécanique de précision.
Faut juste leur donner des ordres un peu précis, et...
Exactement. Voilà. Mais une fois qu'on est conscient de ça, bah, c'est hyper agréable, parce qu'il n'y a pas de surprise, et on peut en demander énormément. Et ça va vite. pardon.
C'est une histoire quand même très drôle.
Sérieux. Bah moi, ça a suscité une vocation. Hein. Donc, non seulement c'est drôle, mais en plus, c'est, j'ai trouvé ça assez séduisant. Je me suis dit, waouh, je vais travailler qu'avec des mecs comme ça. C'est parfait. Je signe où ? Parce que si c'est pour engager ma vie et surtout risquer d'engager la leur, bien sûr que je veux travailler avec ces mecs-là. Ils sont déterminés. Hein.
Au moins, il n'y aura pas de friture sur la ligne.
Il n'y aura pas de friture sur la ligne. Et pour reprendre ce que disait Mesmer, j'ai voulu servir la Légion étrangère parce qu'on y travaille avec des gens sérieux.
Mmh. Et non, mais alors, du coup, ça. Comment dire ? Un truc aussi étrange avec, puisque c'est vos soldats, enfin c'est des gens avec qui vous servez, et puis ils ont un truc bizarre à leur identité, forcément, quoi. Enfin, c'est, vous voyez, enfin, même la manière dont vous le racontiez, ils racontent pas trop leurs histoires, ils parlent pas trop d'eux, alors que c'est quand même un peu une base de la sociabilité militaire, normalement, de partager un peu son parcours, qui on est, enfin bon, de se raconter, quoi, de se partager. Et là, là, c'est des mecs donc ils vous racontent rien, vous connaissez même pas leur nom, vous savez pas trop ce qu'ils ont fait avant, vous essayez de deviner au tatouage, mais faut pas trop les regarder. Enfin, c'est
non
mais
c'est, le tableau est assez sombre dit comme ça.
Non, pas du tout. Non mais c'est aussi assez séduisant. Enfin, c'est la table rase, c'est la page
c'est
blanche.
La table rase.
Non mais bon, c'est spé quoi, comme
c'est
lien.
Spécial, mais je crois que en fait justement c'est pas biaisé. On voit l'homme tel qu'en lui-même. En fait, le légionnaire, c'est l'homme nu. C'est l'homme tel qu'en lui-même, tel qu'il a redémarré. Et moi, je crois au contraire qu'on voit très bien qui sont les gens en étant départis de tous les oripeaux sociaux. Et c'est ça qui est génial. Et tout le monde souscrit à, je pense, à ça, à la Légion étrangère. Ce qui compte, c'est pas ce que t'as fait avant ou d'où tu viens, mais plutôt qui tu es et ce que tu fais. Et en ce sens, d'une certaine manière, la Légion offre d'échapper à une forme de déterminisme. Et moi, c'est ça qui me paraît extrêmement riche. Et je pense que c'est ça aussi qui séduit bon nombre de légionnaires et qui fait que c'est une forme d'univers à part où on se fout absolument du star system. Justement, au fort de nos gens, je ne vais pas donner le nom de la célébrité qui était venue. Ce n'était pas spécifiquement un ami de la Légion étrangère. Pour citer un ami de la Légion étrangère, ami du fort de Nogent, le chef Thierry Marx, lui, il souligne que justement les légionnaires jugent l'homme sur pièce et ils se foutent du star system. Et Thierry Marx a tout à fait compris ça et lui est hautement apprécié des légionnaires. Et justement, un jour au fort de Nogent, il y avait une célébrité.
Ils viennent faire quoi, ces célébrités ?
Alors là, c'était sur une action de rayonnement, je ne vais pas donner davantage de détails. Mais donc, c'était un présentateur télé un peu connu qui s'était pointé. Et en fait. Je pense que partout ailleurs dans la société ou dans une entreprise normale, ça aurait suscité un petit effet groupie de « il est là, bah c'est super, je vais aller prendre ma photo avec lui », etc. Et là, en fait, personne ne voulait y aller. Tout le monde s'en fichait. Enfin, on ne le connaît pas. C'est qui, lui ? Il a fait quoi pour nous ? Il est qui par rapport à nous ? Et finalement, il y a ce rapport d'intérêt pour la personne plutôt que pour l'étiquette qu'on lui colle chez les légionnaires et qui ce jour-là s'est manifesté de manière extrêmement crue parce que du coup moi je me suis retrouvé à y aller, j'étais un petit peu tout seul face à ce monsieur sur cette action un peu secondaire, mais les légionnaires n'étaient pas du tout fascinés. Les légionnaires sont fascinés par les individus et par peut-être par leur parcours mutuel mais pas pour pas par les
eux-mêmes n'ayant pas de nom, les grands noms, ça leur fait pas grand-chose, quoi.
Ouais, peut-être, ouais. C'est une bonne formule.
Mais alors, non, mais ça pose la question quand même des liens qui se font sur le long terme, puisque c'est des gens qui apparaissent, se soudent, oui. Et puis ensuite, bon, il y en a qui restent longtemps, puis il y en a aussi qui repartent, oui. Et qui repartent dans leur pays, qui repartent faire autre chose, qui prennent leur nouvelle identité, ou qui sont devenus français, enfin bon, dans tous les cas, voilà, ils restent pas tous toute une carrière à la Légion. Oui. Et est-ce que ça complique, est-ce que ça facilite les liens ? C'est-à-dire ce côté...
Ah oui, il y a une matrice qui est quand même partagée entre tous ceux qui ont servi la Légion étrangère, je pense. Je pense aussi que les parcours sont effectivement très différents.
On peut comprendre qu'après, ils disparaissent quoi, dans la nature.
Oui, tout à fait.
Oui. Alors que bon, bah, dans notre unité, on sait que le mec vient de là, que de tel coin de France, qu'il retourne peut-être.
Les légionnaires disent souvent, les légionnaires anciens et sous-officiers disent souvent que c'est la rupture entre celui qui est ancré dans la Légion étrangère et peut-être les autres, c'est le premier contrat. Au-delà du premier contrat de 5 ans, il y a un virage essentiel pour les légionnaires de savoir s'il va reconduire ou non. Et là, généralement, il perd beaucoup des amis avec lesquels il a fait l'instruction. Déjà, ils sont séparés dans les régiments. mais là beaucoup ne rengagent pas. Et donc il y a un vrai virage à ce moment-là qui se fait de dire ok, je le fais plus. Enfin, je choisis la Légion finalement. Et mais pour répondre à la question de savoir si ça crée quelque chose, oui, ça crée indéniablement quelque chose, surtout pour les gens, je pense, qui ont servi plusieurs contrats. Mais même un contrat, hein, c'est significatif, c'est une expérience de vie quand même très particulière. Et puis après, je pense qu'il y a différentes manières de le ressentir. Mais je vais livrer une anecdote à ce sujet. J'étais sur une mission en Afrique assez récemment. Et dans ce cadre, je devais tâcher de tisser un peu un carnet d'adresses dans une capitale africaine. Et puis, un soir, on me présente dans un bar un monsieur qui est d'origine qui est maghrébin, qui est d'un des pays du Maghreb, et qui est un ancien légionnaire et qui a servi plus de 15 ans à la Légion étrangère. Et en fait, quand je suis présenté en tant qu'officier de la Légion étrangère, on ne s'est jamais vu. Hein. Et c'est pas quelqu'un de spécifiquement chaleureux avec les inconnus. Et là, littéralement, il me prend dans ses bras et il me dit à l'oreille, c'est la famille. Moi, il y avait beaucoup de bruit dans le bar. Donc, c'est aussi pour ça qu'il se penche à mon oreille pour que je l'entende. Et il me dit à l'oreille, c'est la famille. Et je lui réponds, la seule, la vraie. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il y avait une énorme relation de confiance mutuelle et de compréhension mutuelle qui s'était tissée. Parce qu'en fait, mais ça, je pense que c'est pareil dans beaucoup d'autres métiers très spécifiques. En fait, le fait d'être passé par le même moule exigeant et formateur, ça, bien sûr, ça induit quelque chose entre les personnes qui ont traversé cette même formation et puis d'une certaine manière, cette même épreuve. Parce qu'on est éprouvé à la Légion étrangère. On est éprouvé.
Merci beaucoup, commandant Samuel.
Avec plaisir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.